Le journal Frédéric Barrère. Bonjour Frédéric.
Bonjour à tous. Plus vite, plus grand. La devise du gouvernement pour la vaccination. Des centres de vaccination éphémères sont mis en place ce week-end sous la supervision d'une bonne partie du gouvernement. L'accélération de la campagne de vaccination doit se poursuivre et l'on reparle de vaccinodrome. Daniel Messager dans un instant. La Nouvelle-Calédonie confinée à partir de demain. 9 cas de contamination ont été détectés ce matin. La journée internationale des droits des femmes. Plusieurs manifestations sont organisées en région et à Paris à la veille de cette journée. Invité de ce journal, Suzy Rottmann, porte-parole du collectif national pour les droits des femmes et qui appelle à une grève féministe. Dans ce journal également, la visite du pape en Irak à la rencontre des communautés chrétiennes, la Birmanie où la répression se poursuit et puis du cyclisme, avec le départ dans quelques instants du Paris-Nice. La météo, ensoleillée et frais au nord, perturbée au sud. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal.
France Inter.
La France, sans doute championne d'Europe ce week-end des injections. Plus de 220 000 personnes ont été vaccinées hier et l'opération vaccination de masse se poursuit aujourd'hui. Depuis hier, les ministres enchaînent les visites dans les centres de vaccination éphémères avec un mot d'ordre, accélérer les injections pour éviter les restrictions. Ce matin, trois ministres sont sur le pont dans le Nord et le Pas-de-Calais. Olivier Véran, ministre de la Santé, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et Brigitte Bourguignon, ministre en charge de l'autonomie. Et peu avant leur arrivée dans le Nord et le Pas-de-Calais, le maire socialiste de Boulogne-sur-Mer, Frédéric Cuvillier, dénonçait le retard pris en matière de vaccination chez lui dans le Pas-de-Calais. Réponse d'Olivier Véran.
Tous les élus, et c'est tout à fait normal, sur tout le territoire national, demandent à ce qu'on ait plus de vaccins. Moi-même, je demande à ce qu'on ait plus de vaccins. Ensuite, nous faisons un effort particulier, évidemment, dans les territoires dans lesquels, au sein desquels le virus circule le plus, notamment les 23 départements qui ont été placés en vigilance renforcée. Et plus les livraisons sont importantes, plus nous vaccinons. Encore une fois, il n'y a aucun stock de vaccins dans les couloirs ou dans la cave du ministère de la Santé ou du ministère de l'Intérieur. Tous les vaccins sont délivrés dans les centres et dans les hôpitaux.
Olivier Véran, ce matin à Boulogne-sur-Mer, le Premier ministre Jean Castex a donné le ton dès hier en expliquant qu'il fallait mettre le paquet sur la vaccination en allant plus vite et en voyant plus grand. Pour le gouvernement, l'opération menée ce week-end ne doit pas être exceptionnelle. Une réflexion est en cours sur le nombre de centres de vaccination, mais aussi sur leur taille, Daniel Messager.
Le terme de vaccinodrome n'est pas clairement énoncé, c'est celui de centre de vaccination éphémère qui est apparu dans le vocabulaire du Premier ministre lors de la conférence de presse de jeudi dernier. Les vaccinodromes renvoient trop à l'épisode de la grippe H1N1, pas vraiment un succès. Et pourtant, c'est bien à des centres XXL que le gouvernement réfléchit, soit utiliser des lieux existant déjà comme des gymnases, soit créer temporairement de vastes barnums, car la vaccination est devenue l'arme massue contre l'épidémie. Et les doses arrivent. 11 millions d'injections sont prévues fin mars, dont 4/5 seront des premières doses. Parmi elles, 2 700 000 de vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna. Quant à AstraZeneca, plus d'1 million de doses hebdomadaires sont attendues. Il faudra donc les troupes pour vacciner. Le décret autorisant les pharmaciens, infirmiers et sages-femmes est sorti vendredi. Le 15 mars, ils pourront être à pied d'œuvre en utilisant AstraZeneca. Pfizer et Moderna seront à disposition en ville, mais un peu plus tard. Il faut auparavant un avis de l'Agence du médicament sur leur stabilité à une moindre température.
Daniel Messager. Du côté des soignants maintenant pour lesquels la vaccination est jugée encore insuffisante par le gouvernement, cet ordre professionnel de santé rappelle d'une seule voix ce matin les soignants à leur devoir d'exemplarité. La protection des patients est un devoir professionnel fondamental et une exigence éthique, indique notamment l'ordre des médecins, l'ordre des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes ou encore des pharmaciens. Et puis, en Nouvelle-Calédonie, un confinement strict de 2 semaines va être mis en place après la découverte ce matin de 9 cas de contamination au coronavirus selon les premiers éléments. Le virus venait de l'archipel de Wallis et Futuna, la collectivité d'outre-mer voisine de la Nouvelle-Calédonie. Laurent Prévost, haut-commissaire de Nouvelle-Calédonie.
Nous avons décidé la mise en place d'un nouveau confinement général pour la Nouvelle-Calédonie à compter de lundi soir, donc de demain soir, à minuit. Nous sommes évidemment tous conscients des conséquences qu'implique un nouveau confinement pour la vie économique et sociale du pays. Mais le confinement, c'est la seule manière, et c'est ce que nous ont dit les experts convoqués cet après-midi ici même au gouvernement, c'est la seule manière de répondre efficacement aux besoins de contenir les contaminations et d'identifier les personnes éventuellement porteuses du virus. comme en mars dernier, nous espérons que le civisme guidera toutes les Calédoniennes et tous les Calédoniens dans la période qui s'ouvre, afin de nous permettre collectivement de pouvoir surmonter ce nouveau moment difficile.
Laurent Prévost au micro de Nouvelle-Calédonie, la première. La journée internationale de lutte pour les droits des femmes est fixée sur le calendrier à demain, lundi 8 mars, mais à la veille de cette journée, plusieurs rassemblements ont lieu ce week-end en région et aujourd'hui à Paris. Invitée de ce journal, Suzy Rothman, porte-parole du collectif national pour les droits des femmes, regroupée avec un collectif d'associations féministes pour une journée organisée aujourd'hui, une journée, on arrête toutes et avec un rassemblement Place de la République où vous vous trouvez. Bonjour Suzy Rothman.
Bonjour.
Alors on arrête toutes, c'est un appel à la grève, une grève féministe, c'est-à-dire Suzy Rothman.
C'est-à-dire démontrer le rôle fondamental que jouent les femmes dans la société. Les femmes travaillent tout le temps. Elles travaillent à l'usine, à l'hôpital, au magasin, mais elles travaillent aussi à la maison, elles briquent, elles épluchent, elles repassent, elles consolent, elles cajolent et elles étudient aussi à l'université, au lycée. Et on a bien vu lors du premier confinement le rôle fondamental que jouaient les femmes. C'est-à-dire que la société a reposé en grande partie sur elles. Des premières de corvée, par exemple, des caissières, des aides-soignantes, des aides à domicile, dont le travail a été indispensable. Et pourtant, ce sont des emplois qui sont totalement dévalorisés, sous-payés parce que des emplois féminins. Donc, on arrête toutes. Ça veut dire un jour, mais aussi tous les jours, on arrête de travailler pour voir le rôle fondamental des femmes. Les militantes féministes espagnoles, suisses, argentines, polonaises l'ont fait avant nous et nous devons vraiment réussir cette grève des femmes, cette grève féministe.
Quand les femmes s'arrêtent, tout s'arrête, Suzy Rothman. Estimez-vous que vos revendications sont mieux prises en compte aujourd'hui, mieux relayées également? Est-ce qu'il y a des progrès?
Écoutez, on assiste à un regain du mouvement féministe. On a réussi à faire entendre de nouveau notre voix par rapport aux violences. On a réussi par rapport au viol sur les enfants, parce que c'est important de les relier, ce sont des violences patriarcales, de faire en sorte que le ministre de la Justice a dit qu'il allait légiférer. Il y a encore beaucoup de choses à faire, par exemple, faire passer dans les faits la convention 190 de l'Organisation internationale du travail qui prend en compte les violences au travail. Mais ça commence un petit peu à avancer. Mais vous savez, ça fait longtemps que les féministes se battent, hein. Le féminisme contemporain, il a émergé dans les années 70. On a fêté l'an dernier les 50 ans du MLF. Voilà, on a réussi à gagner l'égalité formelle. Maintenant, ce qui nous importe, c'est de gagner l'égalité réelle. Avoir égalité des droits, c'est bien, mais que ça passe dans les actes.
Alors, justement, pour avoir l'égalité réelle, quels sont les combats ou le combat prioritaire à mener selon vous ?
Ben écoutez, il y a le combat par rapport aux violences, hein, je l'ai dit, c'est une véritable déferlante à l'heure actuelle. Il y a le fait d'augmenter les délais de l'IVG, ça évitera à 5000 femmes de partir avorter à l'étranger et de permettre, par exemple, pour pallier au manque de médecins qui pratiquent des avortements, que les sages-femmes puissent pratiquer des IVG instrumentales. Mais il y a aussi tout ce qui relève du travail, c'est-à-dire que les femmes, ce sont elles qui sont les plus précaires. Ce sont elles, à 80%, qui sont parmi les temps partiels, il y a 80% de femmes. Comme je le disais tout à l'heure, les métiers dits féminins, féminisés, sont dévalorisés. On sait très bien que l'inégalité salariale se situe à 25%. Donc, notre combat est tout à fait protéiforme à l'heure actuelle. Et c'est le sexisme aussi dans la société, encore dans la publicité, cette tolérance sociale par rapport à une espèce de, je dirais, de reléguer les femmes, elle existe toujours.
Avec aussi un appel à la grève de la consommation, quand vous parlez de sexisme, c'est ça, c'est un enjeu féministe également écologiste.
Oui, un enjeu écologiste, tout à fait, tout à fait. La planète est en train de partir à volo, on le sait, et les féministes ont tout à fait leur combat dedans, bien sûr.
Merci, merci beaucoup Suzy Rothman, porte-parole du collectif national pour les droits des femmes. Et demain, 8 mars, on arrête de travailler, de consommer, de consoler et de briquer, si j'ai bien compris, la grève féministe. Merci à vous Suzy Rothman, merci à Jean-André Giannichini pour la liaison technique. À l'étranger, la visite du pape François en Irak. Le pape est arrivé dans la ville de Karakoche à la rencontre des chrétiens pour célébrer l'Angélus dans une église ravagée par le groupe État islamique. Bruce de Galzin, notre envoyé spécial en Irak, un accueil enthousiaste à Karakoche où la foule était vraiment partout.
Oh oui, rien à voir avec Bagdad ici où le pape est arrivé en avion puis en hélicoptère. Après avoir attendu avec impatience ce moment, c'est ce qu'il a dit dès son arrivée. Le long de la route, beaucoup de jeunes, d'enfants chantaient en italien pour accueillir le pape. Et François a insisté sur l'héritage des anciens de Karakoche, une ville à 90% chrétienne avec 50 000 habitants avant 2014 et l'invasion de Daesh. Le moment est venu de reconstruire et de recommencer, a lancé le pape, alors que la moitié des chrétiens qui avaient fui sont rentrés. Et il s'est adressé plus particulièrement aux jeunes. Ne cessez pas de rêver, ne vous rendez pas, ne perdez pas l'espérance.
Et auparavant, dans la matinée, Bruce, le pape s'est rendu à Mossoul, dans les décombres de cette ville qui fut l'un des bastions de l'État islamique.
Au milieu d'églises en ruine, sur la place des quatre églises dont il ne reste presque rien. Et pour le pape, la diminution tragique des chrétiens est un dommage incalculable pour la société. Les stigmates de la guerre se voient partout et les djihadistes sont encore présents dans la zone. Le pape est donc particulièrement protégé par les forces de sécurité. Mais il n'a pas hésité à saluer ceux qu'il a pu croiser à Mossoul et surtout à Karakoche où il a même demandé de pardonner aux terroristes. Et il a terminé son discours par un appel à la veille de la journée des droits des femmes. Que les femmes soient respectées et protégées, a conclu le pape François.
Bruce de Galzin, envoyé spécial en Irak. Les manifestations ont repris et la répression se poursuit en Birmanie. Des affrontements se sont produits dans plusieurs villes du pays, notamment à Rangoon, la plus grande ville de Birmanie. La colère et la détermination des manifestants ne faiblit pas. Bonjour Eric Biegala.
Bonjour Frédéric.
Et en plus des rassemblements quotidiens, les manifestants pro-démocratie appellent à une campagne de désobéissance civile.
Oui, un véritable appel à la grève générale en fait, mais qui se double de manifestations quotidiennes et multiples, c'est-à-dire partout dans le pays. Ce matin, c'était à Bagan, dans le centre, un site archéologique et touristique très connu, que la confrontation a été la plus violente avec les forces de l'ordre, ces dernières ayant ouvert le feu à balles réelles sur la foule. À Rangoon, l'ancienne capitale, des manifestations de quartier également se déroulent en ce moment. Saï, un franco-birman de 24 ans, vient de sortir de l'un de ces rassemblements. Mais plus que les tirs des forces de l'ordre, ce qu'il redoute surtout, ce sont les arrestations ciblées. Sa famille en a déjà fait les frais.
Alors du coup, j'ai mon grand-père qui lui a été arrêté parce qu'il fait partie de la partie politique démocratique en Birmanie. Ensuite, ma tante, quelques jours après ça, qui était en manifestation, qui a été repérée en tant qu'ancienne activiste. Donc elle est emprisonnée, j'ai toujours pas de nouvelles d'elle. Et puis ensuite, ma mère, elle est en train de se cacher, car c'était aussi elle une ancienne activiste. Et puis, elle a beaucoup montré du doigt tous les meurtres qu'ils sont en train de commettre. Donc, c'est pour ça qu'elle est en danger en ce moment aussi.
Hier soir, rapporte ce matin le site Myanmar Now, King Maung Lat, un cadre local du LND, le parti d'Aung San Suu Kyi, était ainsi appréhendé chez lui, dans le quartier de Pabedan, à Rangoon. Ce matin, sa famille a été prévenue de son décès durant la garde à vue policière de cette nuit, sans autre explication.
Eric Biegala, merci. Le Sénégal connaît lui aussi, depuis plusieurs jours, des manifestations et des violences au cours des deux derniers jours. Au moins 5 personnes ont été tuées lors d'affrontements avec la police. Les manifestants protestent contre l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko, visé par des accusations de viol. Son incarcération a mis le feu aux poudres et l'opposition appelle à partir de demain à 3 jours de manifestation. Dakar, Théa Olivier.
Un mort et 2 blessés à l'hôpital de Kolda, au sud du pays. C'est le bilan de la gendarmerie nationale qui indique qu'une enquête est en cours alors que des manifestations violentes se sont déroulées hier à Diaobé, ville située en Casamance. Les locaux et véhicules de la brigade de gendarmerie de la localité ont aussi été saccagés. Un calme précaire est pourtant revenu pour le moment dans les rues de Dakar, la capitale du pays, mais les traces des dernières émeutes sont toujours visibles. Restes de pneus brûlés, devantures de hauts champs calcinés, pierres et débris jonchés sur la chaussée. Plusieurs supermarchés ont baissé le rideau. Les automobilistes font la queue aux stations essence. Un nouveau collectif baptisé Mouvement de défense de la démocratie, composé de partis politiques d'opposition dont le PASTEF d'Ousmane Sonko et d'organisations de la société civile, a appelé à 3 jours de nouvelles manifestations pacifiques à partir de demain. À Dakar, Théa Olivier, France Inter.
France Inter, le journal de 13h, Frédéric Barrère.
Le parquet de Lyon a ouvert ce matin une enquête après une nouvelle soirée de violences urbaines hier soir à Bron, près de Lyon. 5 personnes ont été interpellées, 4 mineurs, 1 majeur placé en garde à vue. Un groupe d'une 30aine d'individus, cagoulés et masqués, a tenté de mettre le feu à une voiture de police. Des incidents graves qui interviennent après les violences urbaines vendredi soir à Rieux-la-Pape, près de Lyon, et auparavant jeudi soir dans le quartier de la Duchère à Lyon. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a réagi aux violences de ces derniers jours en pointant le trafic de drogue.
Ces violences urbaines, elles ont notamment comme explication le fait que la police, depuis plusieurs semaines désormais, intervient, harcèle les points de deal. Et que s'il y a des violences urbaines, s'il y a des voitures qui peuvent brûler, s'il y a des policiers qui sont pris à partie, des élus qui sont menacés, c'est parce qu'avec les polices municipales, mais la police nationale en premier lieu, on intervient au démantèle chaque jour. Ça a été le cas évidemment dans la banlieue lyonnaise il y a quelques semaines de ça, avec des très gros trafics qui ont été arrêtés, chaque jour des points de deal. Et donc, plus il y aura harcèlement de ces points de deal, plus il y a manifestement réaction des dealers, mais à la fin, ce sera toujours la police qui va gagner.
Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, au micro de nos confrères de France Bleu Nord. Et puis concernant les professeurs accusés d'islamophobie à l'IEP de Grenoble, Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, condamne fermement ces accusations portées contre les 2 enseignants. Frédérique Vidal dénonce des tentatives de pression et d'intimidation qui viennent troubler les missions de l'établissement. Le cyclisme, avec la première grande course à étape de la saison, le Paris-Nice, 79e édition, s'élance aujourd'hui de Saint-Cyr-l'École dans les Yvelines. Parmi les favoris, le numéro 1 mondial, Primoz Roglic, mais aussi les Français, David Godu et Guillaume Martin. Il y a un an, l'édition 2020 avait été écourtée par la pandémie. La course devenait le dernier grand événement sportif organisé en Europe avant de longs mois d'attente. Jusqu'à aujourd'hui. Bonjour Fanny Lechevestrier en direct du Paris-Nice.
Bonjour Frédéric.
Alors le départ a été donné il y a quelques minutes et on l'imagine avec un immense soulagement dans le peloton.
Ah oui, et avec un grand ciel bleu, un grand soleil, c'est assez rare sur Paris-Nice pour le souligner, ça fait du bien, cela donne, même avec un départ sous bulle, c'est vrai, on en est toujours là avec les conditions sanitaires, et bien un petit air de fête dans la ville de Saint-Cyr-l'École. Il y avait d'ailleurs quelques fans présents tout au long de la matinée, à bonne distance des coureurs et des quarts d'équipe. On sent que tout est bien rodé finalement, désormais les barrières protègent les coureurs, et vous l'avez dit, il faut se souvenir qu'il y a un an, sur ce même Paris-Nice, on savait tout juste ce qu'était finalement porter un masque. On n'avait pas encore conscience de ce qui allait arriver en France. Alors tout le monde est vraiment content côté coureur d'être au départ de cette première grande course à étapes de la saison avec du beau monde. Vous l'avez dit, il y a le vainqueur de la Vuelta, deuxième du tour, Primož Roglič. Mais il y a aussi surtout aujourd'hui les sprinteurs. Et on pense notamment pour la victoire d'étape à Arnaud Démare.
Fanny Lechevestrier sur la route du Paris-Nice. Merci beaucoup Fanny. Et on termine en chanson. Alors que les salles de spectacle sont fermées depuis un an, chaque week-end, le Bijou Café Spectacle Toulousain, temple de la nouvelle chanson française, propose des menus de chansons livrés à domicile et chantés dans votre salon. Le menu complet est à 30€ pour les artistes. C'est une façon de renouer avec le public et pour ceux qui les accueillent de retrouver le bonheur du spectacle vivant. Stéphane Iglesis a suivi l'un de ces artistes hier à Toulouse.
Oui, bonjour.
Bonjour, c'est Délivrez-nous.
Délivrez-nous, c'est un menu de chansons livré à domicile avec mini-concert dans votre salon. Dans cet appartement toulousain, ils sont 5 amis à accueillir Guillaume Baraban et sa guitare.
Alors le menu gastronomique, vous voyez, on a en apéritif des petites chansons très légères qui sont vraiment des petites blagues, on va dire. En entrée, on a ensuite des chansons plus proches des émotions, de la famille, des choses comme ça. En plat, on a des choses assez consistantes qui sont assez drôles aussi, mais qui sont assez longues, avec beaucoup d'énergie. En fromage, on va commencer à arriver sur des choses plus sociétales. Et puis en dessert, après, c'est des petites douceurs très douces pour terminer vraiment sur une note poétique.
Chloé a commandé cette sérénade et elle choisit donc les chansons sur le menu.
Puis je me suis dit que ça serait quand même super sympa
d'avoir un concert à la maison, et parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Ça me manque, les concerts. Là, on a pris des chansons à partager, et du coup, ça coûte 30 euros.
Et à la fin du concert, évidemment, le public est ravi, Muriel et Vera.
Moi, j'adore, hein. c'est génial.
Ah oui, c'est très plaisant, ça permet de voyager un peu, ça change les idées, ça permet de s'aérer. Voilà.
La guitare rangée place à un petit brunch, mais il ne faut pas perdre de temps, avec 4 rendez-vous à assurer dans la journée, c'est déjà l'heure de repartir.
Au revoir et puis bon courage surtout.
Toulouse, Stéphanie Glaizis, France Inter.
J'ai pris une veste sur ce mon veste en qui s'élance dans son insouciance.
Voilà, un concert à la maison avec Stéphane Glaizis. C'est le temps pour demain, c'est avec Jean-Michel Golinski.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie.
Jean-Michel Golinski, de Météo France.
En traversant la France du nord vers le sud, le bleu sera la couleur dominante entre la Manche, la Belgique, la Haute-Saône, le Berry et la Vendée, mais plus bas, l'ambiance sera beaucoup plus variable et parfois menaçante, ponctuée d'un régime d'averse entre l'Aquitaine et les Alpes, avec des précipitations plus marquées, parfois orageuses, du Golfe du Lion à l'Auvergne. Il va neiger à moyenne altitude sur l'ensemble des massifs. En fait, seule la Provence va rester à l'écart du risque d'averse. Les températures vont afficher cet après-midi un maximum de 7 degrés à Caen et à Lille, 8 à Brest, 9 à Reims et Paris, 10 à 11 sur le Val-de-Loire et le Nord-Est. Il est prévu 12 en Rhône-Alpes et sur le Limousin, 12 à 14 dans le Sud-Ouest et 14 à 17 des bords de la Méditerranée à la Corse.
Jean-Michel Golinski, Météo France.